Voilà, bonjour. Bonjour aussi à ceux qui sont sur, nous regardent sur la vidéo à plus tard aujourd'hui. Moi, je suis un peu dans le cas inverse de Steve. Je me sens un peu malade, mais ma voix fonctionne. Donc, voilà. Ça va, je suis un peu enrhumé, mais rien de grave. Mais l'essentiel, c'est que ma voix fonctionne. Ça va. Comme Steve a déjà dit, c'est ce genre d'imprévu qui nous rappelle que, justement, comme nous avons vu dans l'histoire de Joseph, il y a des choses qui vont mal, qu'on ne comprend pas pourquoi, mais Dieu tourne toujours ces choses en bien. Donc, merci de prier avec moi que le Saint-Esprit nous aide. Je ne vais pas pouvoir prêcher, je n'ai rien préparé, j'ai juste eu une demi-heure pour mettre quelques pensées par écrit. Vous m'excusez, ce n'est pas une prédication, plutôt une petite méditation, une réflexion biblique. Mais merci quand même de prier avec moi que le Saint-Esprit soit à l'œuvre à travers sa parole pour nous édifier malgré les imprévus. Voilà, on prie. Merci Seigneur pour ta parole et pour ton esprit qui fait en sorte que ta parole œuvre dans nos cœurs. Et ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas parce que nous avons passé 20 heures de préparation que ta parole est efficace, mais c'est parce que ton esprit œuvre dans nos cœurs et que tu puisses révéler ta puissance envers nous ce matin malgré les imprévus et malgré nos faiblesses, que tu puisses nous parler à travers ta parole, nous édifier et nous encourager dans notre foi pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans l'histoire de Joseph, presque à la fin de l'histoire, et nous avons vu dans cette histoire pas mal d'imprévus, et surtout parce que, pas juste les imprévus dans la vie de Joseph, mais des imprévus dans le projet de Dieu, le projet de Dieu qu'il a annoncé à Abraham. Il a promis, si vous faites partie de nos groupes de quartier, nous voyons cela. On fait un survol de la Bible et on a vu il y a quelques semaines que Dieu a fait des promesses à Abraham. Il a promis une descendance nombreuse, une terre magnifique, une bénédiction, une relation bénie avec Dieu et aussi que la famille serait une bénédiction pour les nations. Mais dans la vie de Joseph, on pourrait dire qu'il y a un grand écart entre la réalité et les promesses. Le peuple est commence à se multiplier, mais ça reste quand même un petit peuple. Joseph est arraché de la terre promise, et il est en Égypte, pas dans la terre promise. Il n'est pas du tout béni, il est esclave, il est en prison. Et les choses vont mal. Qu'est-ce qu'il peut se dire à ce moment-là? Et nous avons vu tout au long de l'histoire que Dieu tourne ses circonstances en bien, que les promesses commencent à se réaliser malgré les circonstances, que Joseph devient le responsable de toute l'Égypte et il sauve sa famille et devient même une bénédiction pour les nations. On est encore très très loin de l'accomplissement final des promesses de Dieu. Et je me demande dans votre vie si parfois vous vous sentez très très loin de l'accomplissement des promesses de Dieu. J'imagine qu'en tant que chrétien, vous arrivez à discerner là où Dieu a été à l'œuvre dans votre vie, mais pas d'autres moments, vous êtes découragé, vous vous dites, mais Dieu, n'as-tu pas promis de pardonner tous mes péchés? Alors, pourquoi est-ce que je lutte toujours avec ce sentiment de culpabilité ou de honte face au péché que j'ai commis par le passé, ou face au péché que je commis encore aujourd'hui? Ou Dieu, n'as-tu pas promis de nous bénir? Alors pourquoi est-ce qu'il y a tellement de souffrance dans ma vie, alors que tu as promis de me bénir, de nous bénir? Ou Dieu, n'as-tu pas promis d'être avec nous N'as-tu pas promis la présence de ton esprit dans nos cœurs? Alors, pourquoi est-ce que parfois tu sembles être si distant? Pourquoi est-ce que je me sens parfois seul et abandonné? Ou Dieu, n'as-tu pas promis qu'on fasse du progrès contre notre péché, qu'on devient plus saint, qu'on devient des meilleurs chrétiens? Et on dit, pourquoi est-ce que je lutte toujours avec les mêmes péchés? Pourquoi est-ce que j'ai un peu l'impression d'être un chrétien de deuxième rang? J'ai l'impression d'être un peu nulle part dans ma foi. Où sont tes promesses, Seigneur? On peut imaginer Joseph en train de dire cela en prison. Et parfois, nous, on se dit, je suis un peu toujours dans la prison. Et Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Et je pense que cela nous ferait du bien de lire un psaume. C'est Steve qui a suggéré ce psaume, le psaume 103. Je trouve que c'est très approprié. Ça marche très bien avec notre série de prédications. En fait, c'est un psaume qui n'était pas écrit à l'époque de Joseph. C'était plutôt écrit, on pense que c'était écrit beaucoup plus tard dans l'histoire d'Israël. Peut-être pendant l'époque où Israël était en exil, ou peut-être même un peu après l'exil en Babylone. En fait, le psaume tombe dans le... Je sais pas si vous êtes au courant, mais le psautier se divise en 5 livres, et on est dans le 4e livre, et la grande majorité des psaumes dans le 4e livre sont les psaumes qui expriment l'espoir d'Israël au moment de l'exil. Et c'est un moment très noir, très sombre dans l'histoire d'Israël. Ils sont en exil en Babylone. Et la plupart de ces psaumes sont destinés à rappeler à Israël leur espoir au moment le plus bas, peut-être le moment le plus bas de leur histoire, où les promesses de Dieu semblent être loin, loin, loin de la réalité. C'est donc très pertinent pour nous de lire ce psaume, qui est l'un de mes psaumes préférés. Et c'est l'un des psaumes les plus brillants, les plus remplis d'espoir dans tout le psautier. Et c'est frappant de remarquer que ce psaume arrive à l'un des moments les plus bas de l'histoire d'Israël. Donc, on va le lire ensemble et on va voir qu'est-ce qu'Israël faisait au moment où les promesses semblent être finies. Qu'est-ce que ce psalmiste disait pour rappeler à Israël leur espoir, leur espérance? Donc, vous avez sur les feuilles qu'on a imprimées un peu à la dernière minute, le psaume 103, je lis. De David, c'est-à-dire un psaume écrit par David. Juste pour dire, alors David était bien avant l'époque de l'exil, mais on croit que ce psaume était inclus dans le 4e livre exprès pour encourager ceux qui étaient en exil, ou peut-être un peu après l'exil. Donc, de David. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur agit pour la justice, il défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours et pour toujours en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses directives afin de les suivre. Le Seigneur a installé son trône dans les ciels et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous, ses messagers, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux sur lesquels il domine. Que je bénisse le Seigneur. Alors, qu'est-ce que les Israélites devaient se rappeler dans les moments les plus bas de leur histoire où les promesses semblent être finies? Quelques pistes dans ce psaume. D'abord, vous aurez remarqué que le psaume commence sur une note d'adoration. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré. Et David finit avec la même chose quatre fois, donc trois fois ici. Il dit bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Et puis il finit que je bénisse le Seigneur. Est-ce que vous êtes frappé par cela? Que David et Israël, dans leurs moments les plus bas, ils adorent Dieu. Ils disent que je bénisse le Seigneur. Et on a peu l'impression que David parle à sa propre âme là, un peu comme s'il doit se rappeler. Ça vient peut-être pas instinctivement. Il doit se dire que je bénisse le Seigneur. Ça nous rappelle que dans nos moments les plus bas, où on a du mal à croire dans les promesses de Dieu, notre premier instinct devrait être de parler à nos âmes, de dire quand même je vais bénir l'Éternel. J'adore le Seigneur, même si ça ne vient pas instinctivement. Je vais le faire. Mais ce n'est pas juste dans un vide, ça. Ce n'est pas comme si on dit, voilà, j'adore Dieu, même si je n'ai aucune raison de le faire. Non, David nous donne des raisons d'adorer Dieu dans les moments d'épreuve. Et donc, la première chose qu'il rappelle, c'est les œuvres de Dieu. Par le passé. Vous voyez cela tout au long de ce psaume, David martèle ce que Dieu a déjà fait par le passé. Donc il dit d'une manière générale, verset 2, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc il est conscient que le Seigneur lui a fait tellement de bien. Et nous, on peut faire la même chose. Et là, il faut peut-être nous rappeler qu'il y a une distinction entre tout ce qui est spirituel et tout ce qui est matériel. Le Nouveau Testament dit dans Éphésiens 1 et verset 3 que nous avons toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et oui, nous ne sommes peut-être pas bénis sur le plan matériel au point où nous aimerions l'être, mais nous sommes béni à 100% sur le plan spirituel. Et David le reconnaît et nous devrions le reconnaître. Et il explique en quoi il est béni. Vous voyez là, verset 3, il sait qu'il est pardonné de toutes ses fautes. Verset 10, il dit quelque chose de pareil. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Et verset 12, pareil, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Donc, dans ces moments où nous avons du mal à croire que nous sommes bénis, où nous avons du mal à croire que nous sommes pardonnés, où nous luttons avec un sentiment de culpabilité ou de honte face à nos péchés, ces versets sont précieux pour nous, de nous rappeler que Dieu a éloigné toutes nos fautes. Comment? Par la croix de Jésus-Christ. Et David ne savait même pas ce qu'il ne savait pas encore ce que Dieu allait faire à la croix. Et nous avons l'avantage de comprendre le projet de Dieu. Nous pouvons regarder vers la croix de Jésus et voir que Jésus a pris tous nos péchés sur lui-même. Et j'aime cette image que nos péchés sont éloignés. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est-à-dire infiniment quoi. C'est impossible que l'Occident... Oui, OK, je comprends que la Terre est une sphère et que oui, l'Orient, l'Occident se rapproche au final. Mais dans l'image, évidemment, David ne savait pas que c'est le cas. Et on comprend l'image que l'Occident et l'Orient sont éloignés l'un de l'autre. Et nos péchés sont infiniment loin de nous. C'est impossible. Il y a un gouffre entre nous et nos péchés. De sorte que c'est impossible que Dieu nous traite selon nos péchés. Non, il va nous traiter comme si on n'a jamais péché. Parce qu'il a... Yes, il est fini avec nos péchés. Les péchés sont pardonnés et éloignés. Donc, il ne faut jamais avoir peur. Et oui, c'est normal que parfois on se sente coupable face à nos péchés. Mais en fait, on peut toujours revenir à Dieu et dire non, on est fini avec ça. C'est éloigné pour toujours. Vous voyez aussi que David est conscient que Dieu a détourné sa colère. Donc, verset 9, il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Donc nous, on peut dire avec même plus de confiance que David, que grâce à la croix de Jésus, où Jésus a pris la colère de Dieu contre nos péchés, Dieu n'est plus en colère contre nous. Et parfois, on a un peu l'impression que, et je témoigne ça moi-même, on a un peu l'impression que Dieu est mécontent avec nous. Oui, OK, il est notre Père, on est pardonné, mais Dieu n'est-il pas un peu fâché avec nous parfois? Mais non, il ne l'est pas. Oui, OK, il voit nos péchés, il veut que nous fassions du progrès dans la vie chrétienne, il veut que nous prenions nos péchés au sérieux, mais il n'est pas en colère contre nous. Sa colère était déversée sur Jésus et nous pouvons avoir confiance qu'il nous regarde avec faveur. Et de ce fait, nous avons la rédemption quand David dit verset 4, c'est ça, il reprend ta vie à la fosse, donc il rachète nos vies. Donc nous qui étions morts dans nos fautes, il nous ramène à la vie, il nous rachète de la mort et nous avons la vie spirituelle. Nous attendons toujours la vie physique pour l'éternité, nous allons quand même mourir physiquement, mais nous sommes déjà à 100% vivants spirituellement et assis avec Dieu dans les lieux célestes. Nous sommes déjà au paradis, spirituellement parlant. N'est-ce pas incroyable cela? Et donc voilà, David et nous devrions nous rappeler tous les bienfaits, tout ce que Dieu a déjà fait. Mais vous voyez là, il nous rappelle aussi le caractère de Dieu dans ce psaume. Derrière les œuvres de Dieu, il a toujours son caractère. Parce que le salut n'est pas un mécanisme froid et impersonnel, mais c'est l'œuvre d'un Dieu, d'une personne et de Jésus-Christ. Et nous voyons ici que Dieu est un Dieu de justice, verset 6. Et parfois, on ne comprend pas les choses, nos vies ne semblent pas être justes. On peut se demander, mais est-ce que Dieu, est-ce qu'il nous traite d'une manière juste? Mais même si on ne comprend pas, nous pouvons avoir confiance dans son caractère, qu'il est juste. Et en fait, on pourrait dire, il nous rend juste grâce à la croix de Jésus-Christ. Il est aussi un Dieu qui est compatissant, vous voyez cela verset 8. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. N'est-ce pas magnifique cela? C'est la base de notre confiance devant Dieu, que la croix n'est pas juste un mécanisme, mais c'est quelque chose qui a été motivé, mis en œuvre par un Dieu qui est plein de compassion Et donc, il ne nous regarde pas. C'est comme, c'est pas juste qu'il nous dit, OK, voilà, OK, Jésus a payé le prix, donc je suppose que vous êtes pardonné. Non, son cœur est plein de compassion envers nous, même dans nos péchés. Il nous regarde avec faveur et compassion. Et n'est-ce pas magnifique, verset 13, « Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. » C'est comme ça qu'il nous regarde. Vous qui êtes parents, vous savez que parfois vous trouvez vos enfants un peu frustrants, mais on ne va jamais mettre nos enfants à la porte. On va toujours avoir de la compassion pour nos enfants, même si parfois ils nous embêtent un peu. Et Dieu n'est même pas embêté avec nous, même s'il veut que nous fassions du progrès avec nos péchés. Il ne va jamais nous mettre à la porte. Il va toujours nous inviter à revenir vers lui parce qu'il est toujours rempli de compassion envers nous. Une troisième et dernière chose que David rappelle dans ce psaume, donc on a vu les œuvres de Dieu, le caractère de Dieu, mais vous avez aussi vu qu'il rappelle l'alliance de Dieu. Et cela se trouve dans le verset 18. « Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses directives. » L'alliance de Dieu, ça fait référence à ses promesses. D'abord, ses promesses à Abraham, mais aussi ses promesses plus tard, ses promesses à nous en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est garanti par Dieu. Mais vous voyez là, un petit point d'interrogation pourrait surgir dans nos cœurs. Alors, la fidélité de Dieu est pour ceux qui gardent son alliance. Alors, un petit doute pourrait s'installer là. OK, donc, mais moi, je n'ai pas gardé son alliance, pas parfaitement en tout cas. Donc, comment est-ce que je peux avoir confiance dans l'alliance de Dieu si ça dépend de moi? Et là, c'est intéressant, c'est important de constater la différence entre l'époque de David et l'époque d'Israël et notre époque. Oui, à l'époque de David, c'était possible pour Israël de tomber sous son jugement s'il ne respectait pas son alliance. Mais dans le Nouveau Testament, comme Paulin a dit tout à l'heure, on est sauvé par la foi seule. Et non, on n'a pas gardé son alliance. Mais Dieu a fait en sorte que Dieu fait en sorte que son alliance soit respectée à la croix de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a gardé l'alliance pour nous et qui a pris sur lui les conséquences de notre non-respect de l'alliance. Et donc, lorsque nous lisons ce verset, nous pouvons dire que Dieu garantit, Dieu fait en sorte que son alliance continue. Même si nous avons été infidèles, Dieu est fidèle. Et bien sûr, il nous appelle maintenant à marcher dans la fidélité, mais notre confiance ne repose pas dans notre fidélité, mais dans la fidélité du Dieu qui garde son alliance. Et cela nous amène à considérer les promesses qui n'ont pas encore été accomplies. Nous avons parlé de toutes les promesses qui ont déjà été accomplies à la croix. Mais il y a des choses qui restent à accomplir. Et parfois, on l'écart entre la réalité et les promesses. C'est parce que tout n'est pas encore accompli. Nous n'avons pas encore toutes les bénédictions matérielles. Dieu ne promet pas de nous épargner toutes les épreuves physiques dans cette vie. On attend le retour de Jésus pour cela. Et l'inauguration d'une nouvelle création. On n'a pas encore la victoire totale sur nos péchés. Dieu nous promet que nous pouvons faire du progrès contre notre péché. Mais c'est normal que la lutte persiste. Et nous ne sommes pas encore libérés de ce monde qui est toujours en rébellion contre Dieu. C'est normal que nous souffrons la douleur de devoir vivre dans ce monde qui déteste Dieu. Et on ne va pas pouvoir créer le paradis par terre avant le retour de Jésus. Je ne dis pas qu'on ne peut pas œuvrer pour le bien de notre monde, mais on ne devrait pas s'attendre à ce qu'on crée un paradis par terre. Ça ne va pas se reproduire parfaitement avant le retour de Jésus. Et même la présence de Dieu, même si on a le Saint-Esprit dans nos cœurs, parfois on dit « Ah, oh, j'ai trop envie de voir Dieu face à face, de parler avec lui. » Mais on doit attendre la nouvelle création où on va pouvoir jouir de la présence de Dieu d'une manière parfaite avec nous. Et donc toutes ces choses restent à être accomplies. Et c'est pourquoi on s'appuie sur la fidélité de Dieu, son alliance, ses promesses. C'est normal que les promesses ne sont pas encore à 100% accomplies. Et c'est là que la foi entre. La foi, comme Paulin a dit, la foi qui nous a sauvés, c'est aussi la foi par laquelle nous marchons. Nous marchons par la foi dans les promesses invisibles, des choses que nous ne voyons pas encore. C'est difficile, mais c'est normal, ça fait partie de la vie chrétienne. C'était pareil pour Joseph dans la prison. Il devait marcher par la foi. Il ne savait pas comment Dieu allait accomplir ses promesses. C'est pareil pour David, c'était pareil pour Israël à l'époque de l'exil. C'est pareil pour nous maintenant. Nous marchons par la foi. Et j'aimerais donc terminer avec la lecture d'un texte dans le Nouveau Testament qui se trouve sur le verso de vos feuilles. Un texte qui se trouve en Hébreux 11, qui nous parle de la foi. Et on ne va pas lire tout le chapitre, mais on va s'arrêter au verset 22, qui mentionne Joseph lui-même, en fait, que Joseph faisait preuve de la foi. Et nous voyons tout au long de ce texte que les héros de l'Ancien Testament marchaient par la foi dans les promesses. Et eux, ils sont des modèles pour nous. Et nous avons l'avantage d'avoir déjà vu énormément des promesses s'accomplir à la croix. Nous sommes beaucoup plus loin dans les projets de Dieu que eux. Mais on doit quand même s'inspirer de leur exemple pour avoir la foi dans les promesses qui restent. Donc je lis ce texte pour finir. Hébreux 11. Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il lui fut rendu le témoignage qu'il était juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut transporté de sorte qu'il ne vit pas la mort. On ne le trouva pas parce que Dieu l'avait transporté. En effet, avant d'être transporté, il avait reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et animé par sa piété, bâtit une arche pour le salut de sa maison. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui répond à la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qui vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré sa stérilité et son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle tint pour digne de confiance celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, et d'un homme déjà atteint par la mort, sont nés des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer, qu'on ne peut compter. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait accueilli les promesses et à qui il avait été dit « C'est par Isaac que tu auras ce qui sera appelé ta descendance ». Il estimait que Dieu avait même le pouvoir de réveiller un mort. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une parabole, c'est par la foi. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph. On a vu ça la semaine passée. Hein. Et qui se prosterna en appuyant sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de l'exode des Israélites et donna des ordres au sujet de ses ossements. Voilà toute une série de modèles pour nous, de personnes qui ne voyaient pas le plein accomplissement des promesses, mais ils s'appuyaient. Ce n'était pas une foi aveugle. Parfois, on dit la foi, c'est aveugle. Non, ce n'est pas aveugle. C'est une foi dans quelque chose de solide, dans les promesses de Dieu. Oui, c'est une foi dans quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est quand même une foi dans quelque chose de solide, dans les promesses de Dieu. Et nous, on attend toujours cette patrie céleste où Dieu va accomplir toutes ses promesses. Donc, marchons avec foi cette semaine et tout au long du reste de nos vies, marchons par la foi dans ce qui est invisible, mais en plaçant notre confiance dans ce qui est quand même solide, les promesses de Dieu. Je propose de chanter un chant supplémentaire qui se trouve aussi sur vos feuilles. Puis on va prier et puis je passe la parole à Paulin pour terminer. Donc on va chanter « Béni Dieu, ô mon âme » qui reprend les paroles du psaume 103. Vous allez voir cela. Voilà.